Merci Jean-Pierre pour cette introduction. Je lui ai justement demandé, c'est vrai, de lire Matthieu 25. C'est un long texte, mais c'est vrai qu'on ne lit pas assez. Du coup, il faut profiter l'occasion pour lire la Bible. Et puis, le texte d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans Matthieu 25, mais aussi dans Lévitique 19, que nous aimerions partager tout à l'heure, lire tout à l'heure d'ailleurs. Mais avant tout, pourquoi j'ai choisi ces deux textes? Tout simplement parce que demain, donc le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Vous ne saviez pas? Ben c'est comme ça. Et c'est la journée où on intercède pour toutes ces personnes. Vous savez que dans le monde, il y a 45 millions de personnes qui sont déplacées contre leur gré. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans le mouvement. Et dans l'exode, je veux dire. Voilà, c'est pour... Et puis nous entendons pas mal de nouvelles de tous ces migrants, on appelle ça migrants depuis quelques années. Hein, on disait pas ça avant, mais bon. Et c'est pas un sujet qui est lointain. Ils sont tout proches de nous. Et ce serait bien quand même de réfléchir sur ce sujet. Les étrangers qui sont autour de nous, qu'est-ce que nous faisons avec? Donc depuis quelques années, plus d'un million de personnes sont venues chercher en Europe leur refuge. Pour la majorité, ce sont des femmes, des enfants, mais aussi des jeunes, des hommes, qui s'enfuient de leur pays pour sauver leur vie. Beaucoup sont des Syriens, c'est ce que nous voyons en ce moment, et aussi les autres sont Irakiens, Afghans, Soudanais, Congolais, Guinéens, pas mal de pays d'Afrique, mais aussi de pays qui ont fui Daesh. Il y a ceux qui ont aussi réussi à s'en sortir, sains et saufs, de leur pays. Mais il y a aussi d'autres milliers de personnes qui sont noyées en mer, où ils ont été asphyxiés au fond d'une cale ou d'un camion, en tentant d'aller en Angleterre. En 2014, déjà, on avait recensé plus de 3200 décès en Méditerranée. Et puis en 2015, beaucoup plus. Puis 2016 n'est pas encore terminé, il y a encore des centaines de personnes qui sont mortes dans cet exode. J'ai commencé l'introduction en disant qu'en Europe, il y a 1 million de personnes qui ont été déplacées. Mais au vu d'Europe, en fait, l'afflux de réfugiés, enfin, on a l'impression que tous ces réfugiés sont assez énormes, le nombre de personnes. Mais pourtant, ils ne représentent qu'une infime partie de l'exode, en fait, si nous regardons dans le monde entier. Selon les estimations des Nations Unies, il paraît qu'en Turquie même, la Turquie compte 2 millions de réfugiés, donc deux fois plus que tous ces réfugiés qui sont en Europe. Et puis la Jordanie, 600 000. Et puis le Liban, 1,7 million. C'est énorme dans un seul pays. Et puis pour la position de la France, je dirais qu'à ce jour, la France s'est engagée à accueillir 34 000 personnes sur 2 ans. Donc voilà, ce qui représente à peu près 0,05% de la population française. Pourtant, on a l'impression que tous les migrants viennent en Europe, mais ce n'est pas le cas. Ils sont aussi ailleurs. Ils sont aussi ailleurs. Non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier, nous voyons tous ces exodes, tous ces migrants qui cherchent leur liberté, qui s'enfuient pour sauver leur vie tout simplement. Alors, devant cette réalité que nous pouvons rencontrer dans la vie réelle, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? C'est pour ça que nous avons lu dans Matthieu 25 sur l'accueil de l'étranger, l'accueil des personnes qui sont démunies. Et cet accueil devrait être notre vie normale, une normalité en tout cas. En plus de ce que nous venons de lire, donc, j'aimerais vous lire un texte dans Lévitique 19, 33, 34. Je vous lis. Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Voilà une recommandation assez simple, direct, mais difficile quand même à respecter, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Parce que pour nous, je pense, vous et moi, nous avons peur de l'étranger. Parce que c'est de l'inconnu, parce qu'il est différent. Et d'ailleurs, les migrants qui arrivent, on a du mal aussi à communiquer avec eux, donc la communication est difficile. Et comment vous les voyez quand même dans votre cœur? De quelle manière voyons-nous toutes ces personnes en détresse qui cherchent la liberté, qui cherchent à sauver leur vie? Est-ce que vous les voyez comme des ennemis potentiels qui pourraient gêner votre confort personnel et votre sécurité? C'est vrai, on se dit, mais bon, je veux bien les aider une fois, mais si ça devient plus régulière, là, ce serait beaucoup plus difficile. Et là, ça va vraiment gêner notre confort personnel. Ou bien est-ce que vous les voyez comme des futurs frères et sœurs qui vont le devenir parce qu'on aura eu un cœur modelé par le Seigneur et on aurait eu aussi un cœur assez large pour aller vers eux, pour les secourir, pour parler au nom de Jésus. Mais je vous dis ça, mais même pour moi, c'est très très difficile. Hein? C'est très très difficile. Et là, nous venons de lire dans Matthieu 25 où on décrit les brebis et les boucs. Dieu les déterminera. Et là, la première partie, il décrit les brebis qui étaient disponibles pour les autres, pour l'étranger. Les personnes ont eu faim, soif, ils étaient nus, malades, ils étaient en prison, puis ils ont répondu à leurs besoins. Et quand il dit « Quand avons-nous vu avoir faim et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif, avons-nous donné à boire ?» Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous recueilli ou nu? Avons-nous vêtu? Et là, il dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits, des frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, une parole en disant que toutes ces personnes que vous voyez dans la réalité, si vous les aidez, c'est comme si vous l'aviez fait à moi. Et puis pour les boucs, il dit exactement la même phrase, mais en négation. Et puis à la fin, il dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. J'aimerais encore noter une chose. Il dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits. Il n'a pas dit à l'un de ses plus petits de mes frères. Quand on dit l'un de ses plus petits de mes frères, c'est des frères à moi, des frères et sœurs en Christ. Mais là, c'est l'un des plus petits. Pas forcément les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens. C'est vrai que nous avons tendance à penser que, voilà, c'est vrai, le christianisme est la première religion qui est persécutée dans le monde entier et c'est normal de vouloir intercéder. Nous prions beaucoup pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Et puis, nous essayons d'aider nos frères et sœurs qui sont en Christ. C'est vrai que la Bible nous dit de mettre la priorité à ses proches, à nos proches, à notre famille, en Christ aussi. Mais la Bible nous dit aussi de se préoccuper des personnes qui sont dans le monde entier. Non seulement des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens. Il y a quelques semaines, l'Église catholique m'ont contacté en disant que ce serait bien d'avoir une réunion d'intercession ensemble pour prier pour les personnes qui sont torturées. Donc c'est dans le cadre de ACAT qui veut dire Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit pourquoi pas, en tout cas je vais vous rejoindre dans cette équipe de préparation pour écouter ce que vous allez faire. Quand j'ai écouté ce qu'ils allaient prévoir de faire, c'était tout simplement de prier pour les personnes qui sont torturées dans le monde. Et moi, je pensais tout simplement que c'était des chrétiens Parce que dans notre réflexe premier, c'est de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est des gens normaux qui sont pas du tout, qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne, mais qui sont torturés. J'étais un peu hésitant. Est-ce que je vais participer à ça? Nous, on a l'habitude d'aller à une réunion de prière de portes ouvertes que vous connaissez bien. Nous prions pour les chrétiens persécutés, mais c'est vrai que j'ai rarement, et même je dirais presque jamais, prié pour les personnes torturées dans le monde entier. Et ça m'a fait vraiment un choc. Alors que Dieu, c'est vrai, nous demande de prier pour tout le monde. Pourquoi nous privilégions seulement pour les chrétiens? Dans cette parole que nous venons de lire, l'étranger, ce n'est pas seulement les chrétiens, mais aussi tous les autres aussi. J'aimerais que vous ouvriez votre Bible dans Lévitique 19. Dans ce chapitre, il y a beaucoup de directives que le Seigneur nous ordonne de le faire. Les recommandations que le Seigneur nous dit dans ce chapitre, Lévitique 19, ressemblent beaucoup avec aux 10 commandements de l'Exode 20. Dans ce chapitre, verset 3, le Seigneur nous dit de respecter nos parents. Respecter nos parents. Et non seulement nos parents, mais aussi les personnes âgées. Il y a aussi une demande au verset 3, toujours, l'observance des jours de repos, verset 4, le refus de l'idolâtrie, verset 11, la prohibition du vol et du mensonge. Il y a des directives comme aussi comme la profanation du nom de Dieu, verset 12. Puis verset 26-31, il y a aussi le refus de l'occultisme et de l'astrologie. Il y a aussi des versets au verset 16, il est dit aussi de ne pas propager des calomnies, c'est de l'actualité, hein, n'est-ce pas? Combien c'est actuel cela? Pourtant on sait que les calomnies ou les rumeurs, et par le biais des réseaux sociaux, cela peut se propager très rapidement dans le monde entier et faire très mal les personnes. En tout cas, la Bible nous dit de ne pas propager de calomnies, de ne pas commettre de meurtre au verset 16, ou tout simplement détester son prochain, verset 17. Combien de personnes disent parfois « Celui-là, je le déteste !» Moi-même, d'ailleurs. « Je ne peux pas le sentir !» Et le Seigneur nous dit « Mais non, non. » Et verset 18, il nous défend de se venger aussi, même garder rancune. La Bible est très actuelle. Et puis, au milieu de toutes ces ordonnances, de nombreuses prescriptions concernent l'amour du prochain. Au verset 18b, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà le verset actuel, enfin le verset d'aujourd'hui qui nous concerne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas rien. C'est même, je dirais, compliqué. Parce que nous sommes des humains compliqués. Parce que nous sommes des hommes et des femmes versatiles, tortueux, méchant par nature dans notre cœur. Aimer mon prochain comme moi-même, c'est un défi à relever. Je continue encore dans les versets. Dans 9 à 10, il est question aussi des pauvres, enfin, de glanage, c'est-à-dire qu'on pense tout de suite à Ruth, hein, qui a justement était pauvre avec sa belle-mère et que Boaz avait justement ordonné pour que une partie de sa récolte soit laissée aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, etc. Dieu prend soin des pauvres. Dieu prend soin de tout le monde. Et c'est ça sa loi. Puis verset 13 encore, il est question de payer ses salaires le soir même de leur travail. C'est-à-dire que ne pas exploiter nos contemporains en tant que patron. Et puis même ne pas être violent envers lui. Et puis dans ce chapitre encore, on voit des aveugles qui doivent être respectés, aimés, que nous devons prendre soin d'eux. Lorsque une personne est atteinte d'un handicap, nous devons être présents à ses côtés pour l'aider. Parfois, on ne le fait pas forcément parce que ça nous dérange. Ceux qui ont des handicaps, ils sont différents de nous. Du coup, on fait moins. Je parle aussi pour mon beau-frère qui est sourd. Et c'est vrai que l'Église, au départ, n'avait pas fait grande chose. Il était là, présent à l'Église, mais il n'entendait rien. Et traduire la prédication était quand même encombreux, difficile, donc on ne le faisait pas trop. Du coup, il s'éloignait de plus en plus avec la foi. On ne prend pas le temps, on ne fait pas autant d'attention, on ne donne pas autant d'attention à toutes ces personnes qui sont peut-être dans la faiblesse. Donc ici, on n'est pas obligé d'aller très très loin. C'est vrai qu'autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de notre aide. Et puis, je reviens encore à notre texte actuel d'aujourd'hui sur l'étranger. Il reste donc encore à parler d'une autre catégorie de personnes rejetées, l'étranger, qui cherche un lieu de refuge. Des personnes rejetées, vulnérables, des gens peut-être méprisés aussi par vous et moi. Ce sont des étrangers, ce sont des immigrés, ce sont des réfugiés. Je vous relis encore le texte d'aujourd'hui dans Lévitique 19, 33, 34. « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous ne le maltraiterez pas. » Là, la première question, c'est est-ce que nous, on maltraite les étrangers qui viennent séjourner chez nous? Cela veut dire aussi est-ce que nous, on les respecte comme des êtres humains, comme des frères et sœurs en humanité? C'est une question que je vous pose, chacun peut répondre à soi-même. Puis là, je continue la lecture dans verset 33. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les étrangers qui arrivent, il faut les traiter, non pas comme des étrangers, mais comme l'un de nous. Comme un Français, par exemple. Voilà, il arrive. On doit le considérer comme un Français. On doit le traiter comme des Français. Peut-être... On doit aussi faire en sorte qu'il privilégie les protections sociales. D'ailleurs, c'est ce que Huguette fait beaucoup pour les pauvres, pour ceux qui sont démunis. Récemment, ils ont fait passer le droit de mourir décemment. L'enterrement est pris en charge par le gouvernement. Ils ont fait passer cette loi. Voilà. Un peu... le chemin que nous devons prendre, c'est-à-dire, oui, les traiter comme l'un de nôtres, l'un des nôtres, voilà, merci. Pour qu'il y ait un respect des lois vis-à-vis de toutes ces personnes. Et puis, nous avons bien sûr le devoir de leur inculquer le respect des lois, le code civil pénal, de la famille, de travail aussi, pour qu'ils apprennent nos lois aussi pour qu'ils respectent comme un Français. Dans Deutéronome 10, il est dit clairement que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme seulement pour nous. Il y a aussi des personnes qui sont dans la désolation et il prend soin d'eux aussi. Nous ne sommes pas que ses chouchous à lui. Le monde entier est aimé par Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver le monde par le sacrifice de son Fils Jésus. Je continue la lecture dans verset 33. Comme l'un de vous, vous l'aimerez comme vous-même. car vous avez été étrangers en Égypte. Vous l'aimerez comme vous-même. Aimez les étrangers comme nous-mêmes. Est-ce que vous arrivez à aimer les étrangers comme vous-même? C'est énorme ce que le Seigneur nous demande. C'est énorme. Comment nous pourrions aimer les étrangers comme nous-mêmes? Nous savons que nous prenons soin de nous-mêmes. Ce matin, lorsque vous êtes venu ici à l'église, vous avez pris soin de vous, non? Vous êtes lavé, hein, pris une douche, voilà, vous êtes fait belle, beau, pour venir. Et puis, pour votre santé, vous vous entretenez, vous faites du sport, parce que vous vous aimez. Et puis, vous travaillez pour prendre soin de vous-même aussi, pour gagner de l'argent. Tout cela, par amour, pour chacun. Et là, il dit, aimez les étrangers comme vous-même, nous-mêmes. On n'est pas encore obligé d'aller aussi loin. Je dirais même encore une question que nous pourrions avoir, c'est aimons-nous les étrangers autant que nos compatriotes? On ne va pas aller jusqu'à nous-mêmes. Hein? Aimons-nous les étrangers autant que nos compatriotes? Je dirais cette question est valable pour les gens de toute race, de toute nationalité. Parce que le racisme, il peut exister dans tous les sens. Hein? Blanc envers noir, n'est-ce pas? Ça existe. Noir envers beurre. Beurre envers jaune, n'est-ce pas? Et jaune envers rouge. Le racisme existe dans tous les sens, c'est vrai. Je continue la lecture. Car vous avez été étrangers en Égypte. Dieu rappelle aux Israélites que vous étiez vous-même étrangers en Égypte. Vous étiez même esclaves. Vous avez été torturés. Vous avez été exploités par tous ces Égyptiens. Mais j'étais là avec vous. Je vous ai secouru. J'ai tendu la main pour votre secours. Souvenez-vous de qui vous étiez avant. Et regardez maintenant, avec cette souvenance, regardez ces étrangers qui sont là, comme vous, dans le passé. Regardez et rappelez-vous comment moi, ton Dieu, est intervenu pour ton secours. Oui, bien sûr, le Seigneur peut intervenir pour secourir tous ces Syriens, Irakiens, Rwandais, Kosovar. Voilà. Se souvenir que nous étions aussi des esclaves, des étrangers. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Français purs souches? On dit souvent, voilà, Martin, ça fait très français, hein? Ou il y a des noms comme ça, hein? Pour les Coréens, c'est Park, ça fait. Je peux pas être plus coréen que ça. Park, c'est vraiment. Il n'y a pas eu de mélange, c'est ce qu'on dit. Mais si on remonte, je pense qu'il doit y avoir des mélanges avec des Chinois, des Mongols, hein? De même, c'est pareil en France. On n'est pas vraiment français depuis des décennies, non? Si vous remontez sur votre généalogie, sûrement il y a eu des mélanges. Et d'ailleurs, si on remonte jusqu'au bout, c'est Adam et Ève, bien sûr. On est tous famille. Pourquoi faire cette division? Toi, tu es étranger, moi, je suis autochtone. Non, Dieu nous dit, non, non. Souvenez-vous, vous étiez aussi un jour étranger. Et puis d'ailleurs, un dernier point, je dirais que c'est Il faut aussi penser que nous sommes d'ailleurs tous des étrangers, des immigrés, des pèlerins, des résidents temporaires sur cette vie. Nous sommes de passage sur cette terre. Ce que nous avons, c'est, ça ne nous appartient pas. C'est futile, c'est éphémère, ça passe. Notre vraie patrie, c'est là-haut. Nous sommes tous des étrangers, des pèlerins, des résidents temporaires qui sont là momentanément pour aller rejoindre auprès du Seigneur. C'est là notre espérance. Et lorsque nous avons cette espérance, nous pouvons voir différemment tous ces étrangers qui cherchent la sécurité, qui cherchent une aide. Nous pouvons tendre notre main. Nous pouvons essayer de tendre notre main. On ne peut pas faire 100%, mais on peut déjà commencer par 1% de ce que nous pouvons faire. On n'est pas obligé de faire des miracles ou donner tout notre argent, non. On peut faire petit à petit. Et je dirais même, on peut commencer par la prière. Si nous prions, le Seigneur nous donne un cœur miséricordieux vis-à-vis de ces personnes. Et dans la prière, je pense que le Seigneur aussi peut nous inspirer pour aider toutes ces personnes que Dieu nous fait voir. Il y a des besoins partout dans notre proche. J'aimerais conclure. J'aimerais terminer par une citation, quelques phrases, d'un catholique engagé. Il s'appelle Frère Aloïs, prieur de Thésée. Et cet article a été paru dans une douzaine de journaux européens, dont La Croix, en mars 2016. Je vous lis. Ne permettons pas que le rejet de l'étranger s'introduise dans nos mentalités, car le refus de l'autre est le germe de la barbarie. Au lieu de voir dans l'étranger une menace pour notre niveau de vie ou notre culture, accueillons-le comme un membre de la famille humaine. Ceux qui frappent à la porte de pays plus riches que le leur poussent ces pays à devenir solidaires. Ne les aident-ils pas à prendre un nouvel élan? De nombreux jeunes Européens ont peine à comprendre leurs gouvernements quand ceux-ci manifestent une volonté de fermer les frontières. Ces jeunes demandent au contraire qu'à la mondialisation de l'économie soit associée une mondialisation de la solidarité et que celle-ci s'exprime en particulier par un accueil digne et responsable offert aux migrants. Puis peut-être je peux citer encore quelques versets bibliques dans la Bible. C'est non seulement celui qui vient d'ailleurs, mais aussi celui qui est autre que moi, qui est différent. Enfin, je peux vous dire que accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Le Seigneur nous a accueillis tels que nous sommes, malgré nos défauts, malgré nos manquements. Il nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je relis encore dans Matthieu 25, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen.